L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 256e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Nous sommes le dimanche 2 juillet, c'est la fin de l'année scolaire, la fin de la saison, et c'est la dernière émission de la saison.
Puis c'est un numéro qui se fête en fait, c'est une puissance de 2, c'est beau.
Ah effectivement, oui.
Pour une émission d'informatique, je suis désolé, c'est important parce que la prochaine à fêter, c'est la 512e, c'est dans longtemps.
Effectivement, 512e, ce sera la 26e saison de l'écho des gnous.
Ça fera beaucoup.
En 2039.
On a de la marge.
Dans quel état on sera à ce moment-là. Donc, on prendra 2 mois de vacances radiophoniques. Évidemment, on ne part pas 2 semaines, 2 mois en vacances complètes. Et on se retrouvera, alors, moi en général, 36-15 My Life, je prends mes congés plutôt en septembre. Donc, on se retrouvera plutôt fin septembre, voire début octobre. Ou alors, début septembre, si Pierre a envie de faire l'émission tout seul ou...
C'est déjà arrivé, je sais pas.
Ou plus ou moins accompagné. On vous tiendra au courant. En attendant, pour la dernière fois de la saison 2022-2023, nous allons vous présenter l'actualité des 2 semaines écoulées. Et on va commencer par un cocorico décerné par Pierre.
Ah oui, ils sont balèzes.
Le gouvernement français est non content d'imposer des filtrages par serveur DNS aux... fournisseur d'accès, donc pour éviter que les Français n'aillent sur des sites non autorisés. Maintenant, le gouvernement veut imposer, pour velléité, de le faire au niveau du navigateur.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai envie de dire, tu vois, toi, t'es négatif. Tu dis, ouais, après avoir essayé sur le DNS, ils vont mettre dans le navigateur. Mais moi, je trouve que, justement, c'est bien, parce qu'ils ont évolué, ils se rendent compte, ah, mais le blocage par DNS, c'est débile. Bravo, vous venez de comprendre que c'était débile, et que vous pouviez pas le faire à ce niveau-là, vous pouvez pas le faire au niveau du FAI. Vous le faites au niveau du navigateur web. C'est
maintenant,
pas, c'est...
l'État veut imposer des fonctionnalités au navigateur.
Ouais, ça va être très compliqué. Je crois qu'il y a un concept qu'ils n'ont pas saisi.
Il y a actuellement 80 députés du Rassemblement national.
Ouais.
Qui a fait 42% au deuxième tour des dernières élections. Et que la droite prétendument républicaine n'est pas forcément beaucoup plus consignante envers les libertés publiques.
Non, c'est mal barré. Et du coup, là, leur objectif, oui, c'est aussi débile que ça, c'est de dire, ben, on va... demander au navigateur web de mettre en place un blocage d'URL sur la base d'une liste que nous, on fournirait. Alors, déjà, ça pose plein de questions. C'est parce qu'il y a plusieurs façons de faire un truc comme ça.
Le navigateur n'est pas prévu de base.
Alors, le navigateur a déjà un mécanisme de blocage comme ça.
Oui.
Oui, ils ont déjà quasiment tous, ils utilisent l'API de Safe Browsing de Google qui fournit une liste d'URL à attention, n'y allez pas, ça a été repéré comme étant du phishing ou de la source de malware.
Un petit peu comme un adblock.
Ah ouais, ouais.
Sauf que là, c'est Google qui contrôle, alors forcément, les
c'est
sites
ça,
de pub,
du coup, ça passe mieux. Oui. Et non, pour le coup, c'est vraiment c'est du contenu malveillant, donc c'est pas plus mal que ça existe. Mais il y a deux façons d'implémenter quelque chose comme ça. Soit le navigateur va dire à chaque fois que vous voulez visiter toto.com, il va dire au fournisseur « Bonjour, on me demande d'aller sur toto.com, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien ou c'est pas bien ?» Choix 1. Choix 2. Le navigateur, tous les X jours, va dire « Ah, tiens, ma liste, elle n'est plus à jour. Hop, j'ai téléchargé une nouvelle liste. » Et je vais appliquer localement, je regarde ma liste et puis je dis « Bon, bah, ok, ce site-là, il est bloqué, j'y vais pas. » L'inconvénient de cette deuxième solution, c'est que c'est moins réactif parce que tu vas pas télécharger toutes les 2 minutes la liste complète. C'est complètement con de faire ça. Le but, c'est d'avoir ça en cache, puis la liste, elle peut être relativement grosse.
Et s'il y a une attaque sur le site en question ?
Voilà, c'est encore plus compliqué. Il y a plein de cas, hein, c'est vraiment pas simple. Le premier cas, là où il y a un gros souci, c'est que votre navigateur, il va dire à un tiers, il va dire tous les sites que vous allez visiter. Vous n'avez pas forcément envie, d'un point de vue vie privée, ça dit énormément de choses sur vous. Donc, les deux solutions ont leurs problèmes. Selon ce que l'État propose, soit ça va être débile, soit ça va être débile et dangereux.
Et si j'empêche typiquement... Via le fichier host de la machine, j'empêche le navigateur d'aller vers ce site. Ça fait quoi ?
Voilà, ça fait des chocs à pic. Première solution au choc à pic. Si tu le bloques au niveau d'un firewall, Deuxième solution, il y a plein, localement c'est facile de bloquer un site, donc il y a plein de problèmes liés à ça. Maintenant, si tu commets une infraction, je vais en dire, tu commets une infraction. Voilà, c'est si on te chope, gare à toi, petit sacrifant.
Délit de consultation de site web sans autorisation, ça fait un peu, un petit peu peur.
Hein. Ça fait bizarre hein, à dire comme ça, ouais, c'est mignon. Donc on ne sait pas trop où est-ce
on
qu'ils vont aller.
On a un gouvernement centriste. Hein.
Ouais, c'est ça, ça, ouais, de c'est centre ça. De, oui, ils sont au centre de la droite, ouais, oui. Donc non, c'est plutôt bien parti. C'est vraiment. C'est, puis accessoirement, c'est un peu oublié qu'il existe beaucoup de logiciels libres, dont plusieurs sont des navigateurs web. C'est oublié que aujourd'hui, hein, très sérieusement, écrire un logiciel qui vous affiche une page web, je vous le fais avec à peu près 2 lignes de code.
Oui, parce que tu utilises les lignes de code qui servent à afficher la page web.
Ben voilà, j'utilise les composants d'affichage de page web et il y en a plein qui existent et eux n'ont pas à implémenter cette solution-là. C'est pas dans leur prérogative. Il y a des tas de problèmes sur cette proposition.
Je voudrais savoir l'avis de l'ANSI sur la question. Ça pourrait déplaire.
Ben l'ANSI, honnêtement, je pense que
ça pourrait déplaire leur patron.
L'ANSI, ils vont être plutôt pour ça que pour le blocage DNS si on leur demande. Le blocage DNS, c'est quand même particulièrement con et dangereux, mais on n'est pas à une contradiction près, de toute façon. On verra la suite. Moi, j'ai hâte, parce que là, pour l'instant, c'est qu'un projet. Je ne sais plus où on est, à quel stade en est la loi pour l'instant. On verra d'ici à ce que ça passe. On verra si c'est accepté au niveau européen, etc. Il y a plein de questions à voir encore sur ça. Je pense qu'on va en reparler à la rentrée.
Nous partons chez nos amis d'Outre-Atlantique. Nous partons au Canada. Vivent nos cousins. Et québécois, mais c'est une
vive
loi fédérale dont on va parler. Donc la loi C-18, rien à voir avec le cyborg, pour ceux qui ont l'âge de connaître. Voilà. Fallait que je la fasse. Donc ouais. Cette loi C-18 imposerait donc aux fournisseurs de contenu tels que Facebook ou Google, Meta ou Alphabet, donc, de rémunérer les sites de médias en fonction du nombre de liens qu'ils font vers leurs articles. Donc, la réponse donc, de ces deux entreprises, c'est tout simplement de supprimer toute référence à ces médias sur leur site internet. Voilà. Alors, qui donne du contenu à l'autre, c'est toujours ça. C'est-à-dire que Google, s'il n'y a pas... Alors maintenant, s'il crée de plus en plus de contenu, mais c'est-à-dire que si Google ne peut pas référencer de site internet, ne référence pas de site internet, ils n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Et les sites de médias ont besoin de Facebook, ils ont besoin de Google. Enfin, à la base, ils ont besoin de Google, maintenant de Facebook, parce que c'est quand même, pour pas mal de personnes, la porte d'entrée principale sur internet pour être visible. Les deux ont besoin de l'autre.
Tout à fait.
Qui craquera en premier ?
Moi, l'une des réactions que j'ai vues qui m'a fait beaucoup rire sur ça, c'est que plutôt que de retirer les contenus d'actualité de Facebook et de Google, il aurait plutôt fallu retirer Facebook et Google des actualités.
Oh, mais dans ces cas-là, notre émission va être réduite de moitié, Pierre.
Ouais, mais j'avoue que ça ferait plaisir de ne plus avoir en entendre parler un moment.
Et vous inquiétez pas, on trouve.
Mais la rémunération des droits voisins, ça reste un vrai problème. Il y a un gros sujet là-dessus. Et encore une fois, ben, c'est du chantage, tout simplement, de la part de Google et de Facebook. Voilà, on va voir un bras de fer outre-Atlantique. On verra qui va gagner. Alors, l'inconvénient majeur que je vois pour les journaux américains, pour les journaux canadiens, pardon, c'est qu'ils vont avoir de la concurrence de la part des sites anglophones et des sites francophones, qui seront soit basés aux États-Unis, soit en France, et qui, eux, ne seront pas déréférencés par Google et Facebook. Donc, là-dessus, ils vont pouvoir jouer un petit peu à leur rendre la vie plus compliquée. À voir la suite que ça va avoir, forcément.
Alors, dans les GAFAM, on a fait le G, on a fait le F. Maintenant, on va faire un des deux A. On va faire Apple,
oui.
Qui s'oppose au projet britannique de surveillance du chiffrement de bout en bout.
Mince, j'avais oublié que c'était positif. Merde. Parti en ironie. Oui, donc, comme tout le monde, il n'y a pas grand monde qui a dit « Ah, une backdoor dans le chiffrement de bout en bout, c'est une bonne idée, on est d'accord. » A priori, personne n'a dit ça, heureusement. Je ne sais pas pourquoi. Comme si. Et donc...
Personne qui n'a conscience de ce que ça veut dire.
Voilà. Et puis là, pour le coup, le communiqué est plutôt positif. Donc, je vais citer un extrait du communiqué. Le chiffrement de bout en bout est une capacité essentielle qui protège la vie privée des journalistes, des militants des droits de l'homme et des diplomates. Il aide également les citoyens ordinaires à se défendre contre la surveillance, l'usurpation d'identité, la fraude et les violations de données. Le projet de loi sur la sécurité en ligne constitue une menace sérieuse pour cette protection et pourrait exposer les citoyens britanniques à des risques accrus. C'est clair, c'est bien dit, c'est... bravo, pour une fois.
Et on n'hésite pas à dire qu'on est d'accord avec Apple.
Voilà, tout à fait.
Bon, peut-être sans doute pas pour de la philanthropie, hein. Ils ont aussi leur propre raison, une entreprise aussi agit en fonction de ses intérêts.
Ils ont leur propre système de communication aussi, avec éventuellement du chiffrement de bout en bout, ils n'ont pas forcément envie de diffuser des clés. Ils n'ont pas envie de partager leurs clés.
Pour cette fois-ci, leurs intérêts convergent avec l'intérêt de ceux qui défendent la vie privée.
Et non. Attends, il y a quand même la réplique du gouvernement britannique qui était de dire que les entreprises ne devraient mettre en œuvre le chiffrement de bout en bout que si elles peuvent simultanément empêcher les abus sexuels odieux commis sur des enfants sur leur plateforme.
Ouh, le joli chantage. C'est raffiné.
C'est raffiné, c'est propre. Moi, je... Magnifique. Et donc, nous continuerons à travailler avec elles pour trouver des solutions permettant de lutter contre la diffusion de matériel pédopornographique tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Ben, au bout d'un moment, il va y avoir un choix à faire, en fait, hein, les mecs. Vous pouvez pas avoir les deux. Il y a un souci technique. C'est même pas un souci technique, c'est un souci de logique. C'est de la pure logique à ce niveau-là, mais non. La logique, ça sert à rien, apparemment.
Passons au M maintenant, avec Microsoft qui veut passer Windows dans le cloud. Alors, un système d'exploitation dans le cloud, ça s'appelle un terminal, en fait.
Mais tout à fait. Alors, en fait, c'est dans une... Alors, je sais même plus la source du truc. C'est dans un slideshow, dans un point de pouvoir diffusé en interne. Et je sais plus comment ça s'est retrouvé. C'est dans le cadre d'un jugement. dans une audition entre la FTC et Microsoft dans le cadre de l'achat d'Activision. Je cafouille. Et donc, Microsoft a diffusé un point de pouvoir, un PowerPoint interne, avec les priorités actuelles et à long terme sur Windows. Donc, c'est dans la catégorie stratégie et priorité modern life, donc vie moderne. Allez savoir, hein, y en a qui sont payés très cher pour faire ce genre de diapositive, sûrement plus cher que vous. Et donc, dans les objectifs à long terme, il y a bouger de plus en plus Windows 11 sur le cloud. Et donc, le paragraphe qui va avec, c'est construire sur Windows 365 pour rendre possible un système d'exploitation Windows complet qui soit diffusé en streaming depuis le cloud sur n'importe quel appareil, utiliser la puissance du cloud et des machines clientes pour permettre des services puissamment construits sur la base de l'AI. L'intelligence artificielle, pardon, de l'IA, et avoir la possibilité pour l'expérience digitale, l'expérience numérique, des gens pour que cette expérience numérique soit pleinement roaming, pleinement...
Roaming, ouais, roaming, itinérante.
Itinérante, merci. J'aurais dû le traduire à l'avance.
Bref. Merci Pierre pour cette traduction là,
en direct approximatif.
Et donc ça sonne toujours aussi bien en français qu'en anglais, le bullshit. Hein.
Ah ouais, c'est du beau bullshit, mais du coup ça veut dire qu'ils vont pousser de plus en plus. C'est une stratégie qu'on a déjà largement critiquée dans cette émission. Le Minitel 3.0, c'est-à-dire que vous allez acheter un ordinateur Windows 11, vous allez acheter un ordinateur où vous devrez derrière payer un abonnement quand même pour une bonne partie des fonctionnalités, puisque l'objectif sur les trucs cloud, c'est de dire c'est tous les mois qu'il faut payer, c'est pas juste une fois. Hein. Puisque vous achetez plus une licence, vous achetez un service.
C'est le principe de l'abonnement.
Exactement.
On ne vous vend plus la perceuse, on vous vend le trou.
On pourrait diffuser le sketch des guignols sur la vente par abonnement aux paysans. C'est, ouais. Ça m'énerve.
Je pense que d'un point de vue droit. Alors, Radio Campus paye des droits à la SACEM, c'est vrai. Donc on pourrait diffuser la musique non libre, on ne le fait pas par choix, mais on pourrait. Par contre, là, je ne suis pas sûr. Alors, de courts extraits à titre de citation.
On n'a pas
de juriste sous le coude. On n'a pas de juriste, mais on a de la musique. On va écouter un premier morceau de musique, donc libre, sous licence Creative Commons. Ce sera Besson & Sa, The Picture. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Petit problème de réglage, 2 secondes.
C'était Besson and Sa, The Picture. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus, en 6,6, la radio de nuit terrestre et campusl.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec plutôt de la vie privée et on va parler de Google une nouvelle fois, qui a une fonctionnalité cachée dans Android, mais Pierre va vous en dire plus.
Tout à fait. Alors, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que je ne connais pas bien Android. C'est pas que j'ai jamais utilisé. Mais donc, dans différentes applications, y compris des applications importantes comme les paramètres et toutes les applications de Google Suite, donc les applications que vous pouvez avoir pour du Google Doc, Google Spreadsheet et autres, vous allez avoir un pop-up « Gérer mon compte »,« Manage my account ». Et ce pop-up contient, en fait, un navigateur web intégré. Donc, alors là, j'ai toute l'explication. Donc, il faut cliquer sur paramètres, me gérer mon compte, onglet sécurité, trouver le password manager. Il y a une icône settings, deux, trois options. Et hop, vous avez accès à un navigateur web intégré. C'est pas anormal. C'est pas si anormal que ça de réutiliser des morceaux de navigateur web un peu partout.
Parce que ça, Android, c'est même courant.
Ah, c'est tout à fait, c'est courant, c'est sur
une application, vous passez sur, en gros, une webview.
Mais
c'est quelque chose d'assez, c'est très fréquent.
Tout à fait. Mais il y a un problème, c'est que ce navigateur web embarqué, il n'est pas limité à ce qui est nécessaire pour l'application. Il est complètement ouvert. Enfin, je veux dire, il a accès à tout. Mais il a accès à tout, c'est-à-dire qu'il a accès à tout.
À toutes les données du système.
Non, pas toutes les données. Non, c'est là où il a accès à tout Internet. Et là où c'est vraiment fort, c'est que le contrôle parental que vous pouvez avoir sur Android ne s'applique pas à ce navigateur. Tous les filtrages que vous pouvez avoir par des au niveau système sur Android, non, ce navigateur, il est open bar.
Après, c'est l'affichage du navigateur, en fait, ne montre pas de barre d'adresse.
Non, il n'y a pas la barre d'adresse en plus.
Donc, vous pouvez pas aller. Non, mais dire, ok, votre politique de filtrage n'est pas appliqué, mais admettons que tu tombes dessus, un enfant tombe dessus,
alors,
un enfant pour lequel on limite les sites internet, il ne peut pas aller voir autre chose que
alors,
ce qui est prévu par l'appli.
Si, parce qu'en fait, les gens ont réussi à aller sur YouTube, ils ont réussi à ouvrir les outils développeurs web.
Est-ce qu'ils peuvent le faire facilement?
Il suffit de suivre un tuto, en fait.
Oui.
Là, j'ai le tuto, si tu veux. C'est toutes les explications.
Si tu commences à tomber sur un gamin qui va aller voir un tuto sur comment utiliser le navigateur caché d'Android, bon, déjà, il est vachement malaise.
Ce genre de truc, ça finit par savoir, ça se discute, et puis tu dis... Et au final, il n'y aurait pas grand-chose à faire de la part de Google. C'est Google pourrait très bien modifier le navigateur embarqué pour dire, bon, on va lui faire appliquer les restrictions, on va arrêter de le mettre en open bar, on va limiter les arrêts, etc. Au lieu de ça, Google a dit... non, c'est normal. Non, c'est pas une faille de sécurité, il n'y a aucun souci, c'est normal. Et le fait que ça contourne le contrôle parental, oui, c'est le comportement qui est prévu. Je cite, c'est un comportement intentionnel. Donc, bravo Google, c'est félicitations, c'est vrai que c'est bien connu qu'un gamin qui veut contourner le blocage parental, il ne va jamais trouver de solution comme ça en ligne, surtout que au bout d'un moment, ça sera référencé comme solution pour contourner le blocage parental. Alors apparemment, plus tard dans la semaine, Google a dit « Ouais, en fait, bon, ok, on va reconsidérer la faille de sécurité que vous nous avez signalée, parce que quand même, c'est pas... Ok, bon, notre première réponse, elle était pas bonne. » Est-ce que, effectivement, ça a commencé à faire un petit peu scandale de dire mais Google, là, ils intègrent un navigateur web sans contrôle parental. C'est quand même un peu chelou de leur part. Affaire à suivre, mais voilà, belle boulette.
Alors, c'est pas du livre, mais tu voulais en parler quand même, Pierre. On déplore le décès de John Goodenough.
Son nom
ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'inventeur des batteries au lithium. Et il a reçu le prix Nobel de physique pour ça.
Exactement. Et en fait, j'étais fort surpris de ne pas voir la moindre annonce. Ça, c'est le truc qui me m'écœure quand même pas mal. C'est que on va parler de génies commerciaux. On va parler
de... Pour moi, c'est le prix Nobel de chimie.
Prix Nobel de chimie. Ok. Je me disais aussi chimie, physique, c'est pas les mêmes sciences. Enfin quoi. Bref, on va pas débattre de ça. Donc, on parle tout le temps dans les grands médias, on parle, oui, on va parler, on nous a parlé pendant des plombes du décès de Steve Jobs et on nous a fait chier avec ça alors que... Voilà, c'est tout, c'est un commercial qui est décédé, c'est rien d'autre, c'est pas tant que ça. Alors que là, il s'agit de la personne qui a rendu possible, finalement, la plupart des appareils portables que vous avez. Puisque, imaginez votre téléphone portable branché avec une batterie au plomb. Ça va pas être le même poids au niveau de l'oreille. Ça va pas être aussi pratique à utiliser. Alors, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait trouvé entre-temps, mais...
Et avoir des masques de plomb, alors je connais pas les... Je connais mal les effets du lithium sur la santé, mais le plomb...
Ah, t'as pas intérêt à ce que ça fuit.
C'est pas terrible.
Faut pas avoir de fuite. Mais voilà, il a reçu en 2019 seulement le prix Nobel de chimie pour son travail sur les batteries. Et il a aussi... il continue à travailler sur les batteries encore récemment. Mais voilà, je pense que c'est important de mentionner ça, même si, bon, voilà, il est décédé à l'âge de 100 ans. C'est plutôt respectable.
Dans la rubrique « L'hôpital qui se moque de la charité », Google qui accuse Microsoft de pratiques anticoncurrentielles sur le cloud.
Tout à fait! Mais oui, parce qu'entre eux, ils se tapent dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils se battent plus tant que ça au niveau de tout ce qui est ordinateur de bureau, interface web, etc. C'est bon, c'est rien du tout comme bataille. Même si Microsoft va continuer à défendre chèrement sa vache à lait et ses revenus sur l'ordinateur de bureau... Par contre, sur le cloud, là, ça tabasse fort. Et donc, Google accuse Microsoft, à travers notamment tout ce qui est Office 365, Microsoft imposerait aux entreprises de passer par des contrats avec Azure Cloud, donc son offre de cloud computing, ce qui empêche les concurrents Amazon et Google de vendre leurs produits.
Et on peut faire tourner la suite Google autre part que sur les serveurs de Google.
C'est écoute,
hein.
Tu voilà, veux, hein. Voilà.
Est-ce qu'on peut demander des services AWS ailleurs? Tiens, il restait les derniers A de GAFAM ailleurs que sur un serveur d'Amazon.
Voilà, mais après, ça reste de la vente liée, ça reste quelque chose d'assez gênant. Mais c'est vrai que pour quelque chose que Google fait déjà, c'est assez perturbant. Après, quand Google te vend du Google Documents, ils te vendent pas en même temps un truc Google Cloud. Alors que là, Microsoft te vend le pack ensemble. C'est ça qui peut faire râler. Après, au niveau des parts de marché dans le cloud, faut rappeler que il y a Amazon, deux fois plus petit, il y a Microsoft, et derrière, quelque part, dans une virgule, il y a Google. Google est un nain au niveau du cloud. Au niveau de la vente de cloud pour entreprise.
D'accord, donc ils ont beaucoup de données personnelles. Ah ouais. Ils sont leaders sur le cloud.
Sur l'exploitation des données des gens.
Domestique, mais d'un point de vue professionnel, ils sont largement à la traîne.
Ils sont à la traîne en part de marché et en revenus. Les revenus restent raisonnables, on va dire. Hein. C'est pas anodin. Mais les leaders de loin sont Amazon, suivi par Microsoft à deux fois moins quand même qu'Amazon.
Les news qui vont suivre pourraient s'intituler « Faisez gaffe à vos données personnelles », mais vraiment faisez très gaffe, notamment si vous utilisez les nouveaux jouets tels que ChatGPT.
Non. Ouais, mais ChatGPT.
En plus, il y a des bonnes âmes pour vous conseiller, mais pour augmenter la vitesse de votre travail, pour travailler de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement, et vous décharger de tâches assez répétitives. Utiliser l'IA et utiliser ChatGPT.
Exactement. Alors, petit pot pourri, des données de 100 000 utilisateurs de ChatGPT sont en vente sur le Dark Web. Bref, on ne va pas refaire le blabla sur ce que c'est le Dark Web. Mais voilà, il y a 100 134 appareils qui ont été infectés par des infostealers et qui contiennent des informations d'identification ChatGPT. Donc, ce qui permet de collecter un ensemble de données sur les gens, etc. Voilà. Après, c'est du vol non sélectif. Hein.
C'est au gros filet.
Hein. Oui, c'est au gros filet, là. On va tout choper. Et donc, ils ont chopé pas mal d'appareils. Alors, 3000 en France, 41 000 dans les pays d'Asie-Pacifique, etc. Encore une fois, il faut activer l'authentification par double facteur partout où c'est possible pour réduire vos risques de compromission, etc. Autre petite blague autour de ChatGPT. Vlatipa que si tu entraînes une intelligence artificielle à l'aide d'une autre intelligence artificielle, c'est pas une bonne idée. C'est étonnant, hein. Ah, c'est bluffant, n'est-ce pas? Et ben en fait, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sous-traitent l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est un travail qui est hyper pénible. Vous savez, les CAPTCHA de Google, notamment, qui vous demandent « Oui, cliquez sur toutes les images de vélo sur cette image. »
En fait, vous travaillez à l'apprentissage d'une intelligence artificielle.
Exactement. On vous teste avec 2-3 images où on connaît les bonnes réponses. Et puis quand on est certain que, bon, c'est pas un bot, et bien là, vos réponses, ça devient un complément pour l'intelligence artificielle.
Donc, il faut bien répondre à la première, mais pas à la deuxième.
C'est l'idée. Ça serait bien de pouvoir faire comme ça. Et toujours est-il que le problème, c'est que c'est un travail très pénible et il y en a une partie qui est quand même déléguée à des humains, de préférence dans des pays à bas coût. Mais même ces humains-là, ils n'ont pas forcément envie de le faire. Et sinon, en Europe, il y a des humains qui se disent, enfin en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ils se disent, et si je demandais à une intelligence artificielle de faire ce travail pénible demandé pour entraîner une intelligence artificielle? Et donc on se rend compte que c'est une mauvaise idée. Techniquement derrière, ça donne pas des bons modèles pour l'intelligence artificielle.
Alors, à propos rigolo. Du vol de données dans ChatGPT, ils avaient volé des cookies de session et à partir de ça, ils ont pu récupérer les questions qui avaient été posées à ChatGPT. Non, mais ça c'est très important parce que notamment dans les entreprises, celles qui ont conscience des enjeux liés à la protection des données, ils interdisent notamment de poser des questions à ChatGPT pour résoudre votre travail parce que vous êtes obligé de donner des données concernant votre entreprise. Ouais, qu'elles ont quand même bien raison.
Exactement. J'en ai encore deux au niveau, enfin même trois au niveau d'intelligence artificielle. Nous avons une blague avec deux avocats et leur cabinet aux États-Unis qui ont été condamnés pour avoir cité pendant un procès des jurisprudences inventées par ChatGPT. Bravo, bravo, félicitations.
Alors par contre, ça m'étonne, je connais pas bien le droit anglo-saxon. Je suis pas juriste non plus en droit français, mais condamné pour s'être planté dans la citation de la loi, ça me surprend. Mais après, bon, il faudrait peut-être lire la.
Là, j'avoue, je n'ai pas le courage non plus. Hein, le juridique américain, c'est vrai. Enfin, le juridique français, déjà, ça peut être pénible, mais l'américain, je le pratique pas. Autre cas qui va être intéressant, celui-là. Est-ce que ChatGPT avait le droit de s'entraîner sur toutes les données qu'ils ont collectées? Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Et elle
c'est
va
pas la première fois qu'on la pose, d'ailleurs.
Tout à fait. Et elle va être portée au niveau de la justice. D'ailleurs, petit complément, je rajoute par rapport à cette information-là, c'est quelque chose que je n'ai pas mis sur notre liste article parce que je l'ai lu tout à l'heure. Aux États-Unis...
Car cette émission, ça ne s'étend pas peut-être, mais c'est préparé.
Et oui, tout à fait. Aux États-Unis, Microsoft et GitHub continuent de dire que mais Copilot, on l'a entraîné, il n'y a aucun problème avec les données, vous inquiétez pas. Bon, petit rappel, qu'est-ce que c'est Copilot? C'est une intelligence artificielle dont les services sont vendus par Microsoft pour automatiser l'écriture de code. Sauf que comme elle a été entraînée sur une base de code sous diverses licences, le code qu'elle va ressortir, est-ce que c'est du code qui est vraiment créé ou est-ce que c'est de la citation? Et dans ce cas, le code doit respecter la licence d'origine. Et ça, Microsoft l'a tout simplement ignoré. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce qu'ils ont entraîné Copilot avec le code source de Windows? Si oui, dans ce cas, je dis « Ok, il y a beau geste ». Mais je ne pense pas. C'est étonnant, hein?
Alors, dernier point sur la partie vie privée et à quel point ça peut être dangereux pour la sécurité des États. Si vous connaissez l'application Strava, qui est très utilisée par les gens qui font de la course à pied. Pour,
la muscu.
Non, plutôt de la course à pied. Là, ça trace en fait les déplacements. Ou du vélo. Mais quelque chose, un sport où on se déplace. Sinon, ça n'a pas spécialement beaucoup d'intérêt. Donc là, ça permet de partager avec des utilisateurs, soit vos amis, soit les partager avec tout le monde. Et pas forcément une très bonne idée. Mais passons. Alors, c'est pas les seuls à le faire. Hein. Je sais que. Un célèbre vendeur de montres connectées GPS le fait aussi.
Salut gamin.
Salut, vous avez le droit de dire non, comme moi. Donc, les informations comme quoi on avait déjà pu repérer, grâce à ça, des soldats ou alors des agents de services de renseignement tels que la DGSE, pouvoir donc repérer leur déplacement à l'intérieur du bâtiment quand ils courent, puisqu'ils partagent leurs données. Ah, ça m'étonne déjà qu'il n'y ait pas eu de communication. Là. Je pense que d'ailleurs maintenant, en tout cas j'espère, qu'il n'y ait pas eu de communication pour leur dire attention, ne faites pas ça. Hein. Sauf que, plus grave, mais on peut dire, voilà, ce sont des données qui sont anonymes, en théorie. Sauf que, ça a été sorti, donc c'est Jean-Marc Manac qui avait donc créé des comptes avec des faux trajets, alors pour autre chose que faire de l'espionnage, mais bon, et son compte a été supprimé, son compte Strava, parce que ça a été détecté. Donc, c'est pour ça qu'il en parle, puisque ça a été désormais détecté. A priori, Strava a pris les mesures pour éviter que ça se reproduise. Sauf que, voilà, il est assez facile d'importer des données de Strava et de faire croire que c'est des données qui ont été générées par Strava. Alors, vous. Si vous repérez un endroit où vous voyez quelque chose de sensible, une base militaire, un site gouvernemental, vous générez un fichier GPX, donc un fichier avec des traces GPS correspondant à ça. Faites attention, faire en sorte que donc, ça traduit un déplacement qui se fait à une vitesse cohérente avec une marche à pied, donc à 10-15 km/h. Enfin, si vous courez vraiment très vite. Et vous ajoutez les quelques informations d'horodatage de Strava pour que ce soit un fichier au format Strava. Donc vous l'importez. Et auquel cas, vous êtes détecté comme étant un utilisateur qui a fait du sport à proximité de cet endroit. Et vous pouvez voir les 10 meilleures performances. Et donc, si la personne a un pseudo assez parlant, vous pouvez savoir qui sont les personnes qui avaient fait ces itinéraires.
Voilà. Bravo. Et juste avant le morceau de musique, si tu me permets d'en caser une dernière dans la catégorie diverse.
Je te permets, Pierre.
Parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé assez de cette magnifique sortie de la part de notre champion national, de la part de notre Manu.
Ah bah oui, celle-là, je suis désolé. Nous avons donc un président de 75 ans, en fait, on ne savait pas. Hein,
oui,
Et encore, il y a des gens de 75 ans qui sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit que ça.
Et donc, je vais juste citer la dernière phrase du paragraphe, parce que quand même, c'est la meilleure. À propos des émeutes qu'il y a en ce moment et de la violence qu'il y a dans la rue actuellement, voilà. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux, donc les plus jeunes... qui vont dans la rue comme ça, certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Bravo
la
Manu
jeux vidéo.
Ça fait plaisir, c'est ça qu'on aime.
Ça vaut bien le coup d'avoir élu un président de 40 ans quand même. Hein.
De 40, ouais.
Ouais, il n'est même pas 40 ans, putain. Il avait 38 ans quand il a été élu. Hein. Il parle quand même... Bon, en même temps, je parle qu'il parle à son électorat. Hein.
Ouais,
il sait
qu'il
parle
à
son électorat maintenant.
Mais...
Hein. Donc, clairement.
Ah ouais, non mais c'est dingue.
Ma petite dope sur les jeux vidéo.
Ah, je m'y attendais pas, celle-là, quand même.
Oui,
là, pour le coup, j'étais vraiment surpris. Je pensais pas qu'on pouvait réussir à la caser comme ça. C'est joli tir. C'est magnifique. Et c'est propre, c'est net.
Sarkozy, ça m'aurait pas surpris, tu vois.
Ouais, mais là...
Mais Macron, quand même, le mec qui veut se donner un air Startup Nation, tout ça, moderne...
Ah bah là, et je rappelle, tout de même, des fois que ce soit nécessaire, absolument. Aucune étude sérieuse n'a fait de lien entre violence et jeux vidéo. Au contraire, des études sérieuses ont démontré que les jeux vidéo diminuaient la violence.
Je te crois sur parole, pour le coup.
Voilà, il y a des excellents articles scientifiques qui sont sortis sur ça. Si quelqu'un tient à avoir des références, envoyez un mail à l'adresse de l'émission et peut-être que je prendrai le temps de retrouver les liens. Parce que c'est des sources papier pour le coup, donc faut retrouver les trucs, mais voilà.
Et comme tu l'avais deviné, Pierre, nous allons écouter un deuxième morceau de musique, Rewind, Everything is going to be all right. Vous écoutez les codes de nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. We'll be right back. C'était Rewind, Everything is going to be alright. Vous écoutez, pardon, l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités et on va parler logiciel. On va bien évidemment parler logiciel libre. On va commencer par la distribution commerciale principale, Red Hat, qui ferme l'accès à ses sources. Alors, d'un point de vue licence, ils ont tout à fait le droit, hein, puisque la redistribution s'applique, l'obligation de redistribution s'applique à ceux qui ont acheté ou qui ont acquis le logiciel. C'est-à-dire, si vous distribuez un logiciel, vous êtes obligé au moins de pouvoir donner l'accès aux sources. Donc ça empêche en gros personne d'avoir les sources, il suffit de payer une licence et on les aurait. Mais Pierre m'a expliqué que c'était surtout pour gêner ceux qui faisaient un peu du parasitage de Red Hat. Je te laisse développer.
Un peu complètement. Donc Red Hat, entreprise Linux, RHEL, a une longue histoire effectivement de clones diffusés gratuitement. C'est-à-dire que Red Hat diffusait les fichiers sources des paquets. Et ben les clones, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient les fichiers sources, ils les recompilaient, et pouf, voilà, vous avez un clone bug pour bug de Red Hat. C'est vraiment ce qu'ils mettaient en avant. Et ça fait des années que Red Hat lutte un peu contre ça. Récemment, le principal clone CentOS a été en fait racheté, assimilé par Red Hat, et c'est devenu la pré-version de la prochaine version de Red Hat, ce qui le rend moins intéressant pour les entreprises, tout en restant un clone de Red Hat tout de même. Mais voilà, compromis, pour les entreprises, ça ne marchait pas. Donc, des nouveaux clones sont apparus suite à ce mouvement. Il y a Rocky et Alma Linux, notamment. Et Red Hat s'est dit, on va les restreindre en limitant la diffusion des sources uniquement aux entreprises, uniquement à nos clients, ce qui est tout à fait autorisé. Et scandale, voilà, pour dire, non, c'est scandaleux, c'est un non-respect de la licence, du logiciel libre, etc. Moi, en fait, je suis désolé, c'est... La Red Hat a déjà eu des cas de violation mineure de licence GPL, et ils ont toujours répondu, ils ont dit « Oh pardon, désolé, on n'a pas fait gaffe, sur une distribution, il y a un tel volume de logiciels, de données, on peut faire des erreurs. » Et ils les ont toujours corrigés dans les temps, dès que ça a été signalé, ils ont fait « Ok, pardon, on n'a pas fait gaffe, on a oublié de diffuser ça, on corrige, c'est bon. » J'ai jamais eu un seul souci de leur part.
Fait preuve de bonne volonté.
Exactement. Red Hat est assez ouvert sur son développement. On a accès en avant-première aux différents composants sous la forme maintenant de CentOS, je ne sais plus quel préfixe à la con ils ont mis. Par contre, il y a toujours les distributions parasites, Alma Linux, Rocky Linux. Pour moi, l'action de la part de Red Hat ici, c'est pas forcément l'action la plus intelligente qu'il puisse y avoir, mais j'en ai pas d'autre en tête, mais c'est une action pour freiner ces parasites qui, à terme, si ces parasites gagnaient en importance, le seul résultat, ça serait la chute de Red Hat. Parce qu'ils apportent rien à la distribution. C'est là où c'est vraiment problématique. C'est qu'ils vendent peut-être un peu de support, mais Red Hat pourrait très bien faire le... au lieu d'avoir le support officiel de Red Hat, voilà, c'est eux qui empochent l'argent. Et ils n'ont pas tous les frais de développement d'une distribution aussi majeure.
Parce que Red Hat est un contributeur majeur à Linux, au système Linux, aux différentes applications libres qui tournent autour de Linux.
Y compris à des briques auxquelles pas grand monde ne contribue, y compris la partie interface graphique, les environnements de bureau, etc. Il y a des contributions majeures de la part de Red Hat. Donc, moi, j'ai du mal à critiquer Red Hat sur ce mouvement, sur cette action. C'est pas la plus intelligente qui soit. C'est sûr que ça fait grincer des dents. Mais au bout d'un moment, le parasitisme... faut trouver des solutions, et le parasitisme est un des problèmes qu'on rencontre avec le principe du logiciel libre, c'est que oui, on diffuse, et donc effectivement, ça permet d'avoir des parasites. Freiner les parasites, moi ça me choque pas.
Sans sachant trahir que... l'esprit du libre, c'est quand même compliqué.
Oui, sachant que c'est ça, c'est le problème, c'est une trahison de l'esprit du libre. C'est ce que certains comprennent. Et les parasites en question, ils ont déjà dit « Oh lol, de toute façon, c'est bon, on a trouvé des solutions, on va prendre des serveurs cloud à pas cher, genre on va payer une heure d'instance cloud auprès d'Amazon ou autre, on va prendre une instance RHEL, et comme ça, on va télécharger tous les fichiers sources, lol. » Moi, je trouve que, justement, ça montre l'esprit des parasites. C'est vraiment, vous comprenez pas que vous êtes le problème.
$100,000 pour un nouveau navigateur web.
Tout à fait, c'est peu et beaucoup. Donc, de quoi que ça cause, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà parlé ici, il y a un projet de système d'exploitation libre, Unix, avec par contre une interface graphique clone de Windows de la famille des NT4 et des 9X. Donc, c'est vraiment vieille interface graphique. Enfin, interface graphique de production, pour être plus gentil. Et donc, ça, ce projet, c'est Serenity OS.
Et donc, je pense que tu n'en as pas parlé.
J'en ai peut-être pas parlé, j'en parlerai peut-être à l'occasion. Et donc, c'est Andreas Kling qui s'est lancé sur ça. Ce projet, il le fait entièrement sur son temps libre. Et dans le cadre de ce projet, tout doit être fait maison. Et donc, il s'est dit, il me faut un navigateur web dans mon système d'exploitation. Et je vais développer mon propre moteur de navigateur web. Et donc, qui s'appelle Orio, Ladybird. Et donc, Ladybird permet en plus d'utiliser ce moteur de rendu sur Windows, macOS et Linux. Tout seul développer un navigateur web complet, c'est impossible. Et ça ne pourra jamais atteindre le niveau d'un Chrome ou d'un Firefox. Mais ce monsieur a réussi à obtenir 100 000 dollars de donations pour travailler à temps plein sur son navigateur web.
Alors, il est dégourdi.
Pardon ?
Il est malin.
Il est malin. Et c'est là où moi, par contre, je partage un peu l'amertume qui était l'actualité passée notamment sur LinuxFR. Et dans les commentaires sur LinuxFR, il y a un développeur important du projet Haiku qui a exprimé une certaine amertume par rapport à ça. Et je la partage. Pourquoi est-ce que ce projet a reçu une telle somme et pourquoi pas d'autres projets? Parce qu'effectivement, 100 000 dollars, c'est une somme pour un projet qui n'a pas concrètement aujourd'hui d'utilisateur.
Alors que oui, il y a des projets libres très utilisés qui mériteraient, eux, un support financier.
Exactement. Et on tombe sur le problème de la rémunération des logiciels libres. Et donc, là, le développeur d'Haiku, donc système d'exploitation libre clone de BIOS, et je ne suis pas sûr d'en avoir déjà parlé dans cette émission, il faudrait vérifier les archives. Non, j'en ai parlé trop souvent, peut-être. Mais c'est pas ma faute si j'aime bien BIOS.
Nous ouvrons la diversité technique.
C'est ça. Et donc, le développeur de BIOS dit, d'Haiku dit, mais nous, on fait un travail colossal et on n'a même pas la moitié de cette somme qui nous arrive par an, quoi.
C'est la différence entre les impôts et le don. Le don, tu es tributaire du bon vouloir de celui qui donne. Alors je ne dis pas que les logiciels libres doivent être financés par les impôts, mais ça illustre la différence entre la charité et la solidarité et la redistribution.
Et ça illustre aussi l'importance de la communication sur les médias modernes. Parce que Haiku n'a pas de présence majeure sur les Facebook, Twitter ou autres réseaux sociaux, ou surtout YouTube. Alors que là, ce projet a des vidéos très régulièrement sur YouTube, peut-être des plateformes comme Twitch ou autres, pour connaître.
Il communique sur les réseaux sociaux. La dégeekalisation, c'est juste après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Roman Koch, Where OK. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
I don't need it, but I never.
c'était Roman Koch. Oui, ok. Vous écoutez les codes avec nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Pierre, qui fait de la poésie, avis de recherche, que devient le Shadow IT avec le RAD en RAD?
Voilà. Alors
tu vas nous expliquer les termes.
Exactement. Donc, avis de recherche, ça veut dire que si vous avez des informations, moi, je suis preneur. Et pour le coup, vraiment, c'est... Je veux bien savoir ce qui se passe dans ce domaine-là parce que je ne suis plus du tout en lien avec ça depuis des années et par définition, c'est difficile de trouver des informations sur ce sujet. Du coup, enfin sur la première partie du sujet. Du coup, de quoi qu'est-ce que je cause ? Qu'est-ce que le Shadow IT ? On va commencer par ce premier élément. Le Shadow IT, donc c'est le terme qui est utilisé aussi en français, ou informatique fantôme, ou parfois appelé Rogue IT. Donc je cite Wikipédia pour le coup, parce que Rogue IT, je ne l'avais jamais entendu.
Tu Alexandre... en voudras de ne avoir jamais entendu parler de ça.
Mais non, parce que c'est normal.
C'est normal.
C'est par définition, tu ne dois pas en entendre parler.
Je suis bête.
C'est
alors
magnifique.
Pourquoi c'est sur Wikipédia si on ne doit pas en entendre parler?
Mais parce que ça existe vraiment. Et parce que c'est le cauchemar des DSI. Mais du coup, ce qui est le cauchemar des DSI, moi, ça me fait plaisir. Donc, les DSI, les directions des systèmes d'information, on parle des problématiques de grosses entreprises.
Le cauchemar des utilisateurs.
Exactement. Et c'est là le cœur du problème. Mais pourquoi je en parle ?
Les logiciels installés comme ça à la...
Ça va même plus loin que ça, mon ami. Mais là où je en parle aussi, c'est parce que ça a un impact, je trouve, aussi pour l'utilisateur final. Et c'est pour ça que j'aimerais bien en parler un petit peu de ce sujet. Donc, qu'est-ce que le Shadow IT ? Vous avez peut-être déjà travaillé dans une grosse entreprise. Alors, je vais prendre histoire réelle, je vais prendre le cas de mon premier stage. J'étais dans une entreprise de vente d'électricité en France.
Vente et
production d'électricité.
Tu étais dans la filiale distribution.
Exactement, tout à fait.
Parce que c'est attention, hein, c'était légalement séparé. Hein.
Oui, c'est séparé, mais écoute, je ne veux pas donner trop d'indices. Je ne veux pas donner les noms, c'est chut-chut, pas de marque. Et il se trouve qu'il y avait un problème technique dans le service, un problème informatique. Il y avait une énorme perte d'efficacité. Si le problème avait dû être résolu au niveau de l'entreprise, la demande aurait dû être formulée, avoir un cahier des charges rédigé par on ne sait qui, envoyé à la direction, renvoyé à la direction au-dessus, etc., pour remonter jusqu'à la direction informatique. Donc déjà, monter les échelons, rédiger le cahier des charges, monter les échelons, ça aurait pris X années. Réalisation, nouveau cahier des charges pour définir ce qui doit être réalisé comme logiciel pour répondre à la demande initiale, réalisation du logiciel, etc. Hop, ils auraient fait un truc dans leur coin, puis ça aurait descendu l'échelle dans l'autre sens. Tenez, voici, ça fait 5 ans que vous avez fait la demande, la demande a sûrement évolué, ce qu'on a fait, ça vous va ou pas, mais c'est le même prix, et voilà, vous avez la solution. Ça aurait pris un temps fou, et ils étaient clairement dans la mouise. Et je suis arrivé en stage là-bas, pouf, et puis on m'a dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour améliorer ça? Finalement, j'ai bossé pour eux plusieurs mois. Alors, le premier prototype a été fini en moins d'une semaine, et je leur ai fait un logiciel ad hoc qui répondait parfaitement aux besoins. Sans vouloir me jeter des fleurs, le besoin n'était pas très compliqué, mais c'était prendre différentes sources de différents logiciels et les connecter entre elles, et puis produire des choses adaptées au service. J'ai fait ça sans avoir jamais le moindre échange avec quelqu'un des équipes informatiques de l'entreprise. J'ai fait ce qu'on appelle de l'informatique fantôme ou du Shadow IT. C'est un logiciel qui est apparu et qui n'avait aucune existence officielle dans la direction d'entreprise, dans la partie informatique.
Donc, là, tu es quand même sur un cas assez extrême, mais tu inclurais toutes les macros, ce genre de choses.
Exactement. Les tableurs Excel avec des macros, les logiciels installés à l'arrache, des sites web exploités alors que ce n'est pas du tout prévu, genre un site web qui fait, une application web de traitement d'images, et vous envoyez des images officielles d'entreprise pour les traiter sur ce site web et pour les retélécharger derrière. Tout ça, c'est ce qui fait partie du Shadow IT. Et aujourd'hui...
Ça traduit plus une manque de compréhension et une manque de capacité à répondre aux besoins d'utilisateurs que vraiment mes usages des utilisateurs.
Attention, hein, je suis d'accord avec toi. L'utilisateur, à mon sens, n'est en aucun cas coupable là-dedans. Et je pense même que cette informatique fantôme est absolument nécessaire et devrait être acceptée, voire encouragée. L'informatique, le but, c'est de résoudre des problèmes, pas d'en créer des nouveaux sous forme de bureaucratie.
Si on n'aurait pas peur de le présenter à la DSI, il pourrait donner des conseils, il pourrait avoir un catalogue.
Exactement.
Je sais que des fois mutualiser, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais bon,
c'est autre débat. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Parce que ça fait maintenant 10 ans que je fréquente plus ce genre de milieu, je suis que dans des entreprises purement informatiques et la problématique n'existe pas en tant que telle. Là où je suis, en tout cas maintenant, en plus, c'est des petites boîtes, donc ces problèmes n'existent pas.
Vous pouvez travailler dans une boîte d'ingénieurs et avoir ce genre de problème.
Tout à fait. J'ai des amis qui ont le problème. Et je me demande comment c'est résolu aujourd'hui, sachant que de plus en plus, les logiciels sont basés dans le cloud. Donc vous n'avez plus accès directement aux données, ça complique la tâche. De plus en plus, les outils de développement sont des outils par les développeurs, pour les développeurs, et c'est la deuxième partie de mon sujet, le RAD en RAD. Le RAD, c'est le Rapid Application Development. C'est ce qui était mis en avant, notamment par les éditeurs des années 90, comme Borland, pour le développement rapide d'applications. Et je disais tout à l'heure, je peux vous faire un navigateur web en 2-3 lignes de code. À l'époque, dans les années 90, je pouvais déjà le faire avec ces outils. Aujourd'hui, c'est un poil plus compliqué. On a déjà régressé pour ce besoin. Et encore, je connais un ou deux outils seulement aujourd'hui qui sont capables de faire ce genre de choses. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça comme besoin. Afficher une page web, 2-3 actions autour, ce n'est pas compliqué. Et pourtant, tous ces outils-là ont de plus en plus disparu du radar. Parce qu'il faut faire du web, il faut faire du web et que du web. Et le web, c'est infiniment plus compliqué en termes de développement que du développement de vraies applications de bureau. La mouvance vers le cloud, vers le web, a, à mon sens, saboté une partie de l'informatique fantôme et de l'informatique personnelle qu'il pouvait y avoir. J'ai souvenir de personnes que je fréquentais, notamment des profs, qui automatisaient certaines de leurs tâches avec des logiciels ad hoc, qui ont été faits soit par des amis, soit par eux-mêmes, juste en prenant une licence Delphi à 40 euros. Ils avaient un outil de développement très simple, bien documenté, qui leur permettait de faire ça. Aujourd'hui, ces outils existent encore en libre. Il y a notamment Lazarus. Je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans une future émission. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a des outils pour ça, mais ils sont peu connus. Et surtout, étant donné que tout doit être fait dans le navigateur web aujourd'hui, mon ami, tout doit y être, enfin, ça n'a aucun sens de développer une application de bureau. Je me fais traiter de fossile des fois quand je dis que je fais des applications de bureau. Alors que ça juste marche. Je mets la pâtée à des applications web en termes de vitesse, de réactivité, de simplicité d'utilisation.
C'est pas fait pour.
De quoi ?
Les applications web, c'est fait pour faire un truc rapide, un truc efficace.
Un navigateur web, de toute façon, c'est un afficheur de documents, c'est pas une plateforme d'application. Et donc aujourd'hui, si vous êtes en entreprise, si vous avez de l'informatique fantôme, envoyez-nous un mail, je suis curieux de savoir comment ça marche.
Merci Pierre, c'était donc le 256e numéro de l'Écho des Gnous, c'était le dernier de notre 13e saison. On se retrouve à la rentrée en septembre-octobre, la date reste à définir pour la 14e saison. Au niveau agenda, rapidement, il y aura un village du libre à la braderie. Donc la braderie, c'est le premier week-end de septembre. On sera donc le 2 et le 3. Il y a également Radio Campus qui sera présent, donc Porte de Paris. Si ça se trouve, il y aura peut-être les deux présents au même endroit. Ça, on vous tiendra au courant. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento et peut-être que la semaine prochaine, je ne sais pas s'ils seront là parce que c'est les vacances, la deuxième émission de jazz. En tout cas, nous, on se retrouve d'ici 2 mois minimum et on vous souhaite de très bonnes vacances. Au revoir à tous et bonne fin de week-end.
Bye bye et bonnes vacances.